Alors, les questions que vous avez posées vous-même à la fin de la table précédente, on va largement, je l'espère, les recreuser en présence de nos invités, que je présenterai tout à l'heure. Et on a choisi, donc, pour introduire cette rencontre autour de la question de l'interprète wilsonien entre contrainte et liberté, on a choisi un certain nombre d'extraits qui annoncent les interventions et les témoignages des invités qui seront tout à l'heure avec moi à cette table. Je précise, pour ceux qui n'étaient pas là dans la journée, que Stephen Kurt, qu'on attendait avec impatience pour qu'il nous parle de l'opéra de Katsu, fait partie des gens dont l'avion est resté au sol pour les raisons que vous savez. Voilà. Alors, l'ordre de diffusion, j'ai juste ça à rajouter par rapport à ce que dit Frédéric a dit tout à l'heure, l'ordre de diffusion que nous avons choisi pour les extraits ne respecte pas la chronologie parce que nous avons préféré rapprocher des instants particuliers qui se font écho, qui entrent en dialogue les uns avec les autres, sans nous soucier toujours des dates. Du coup, cela exige quelques petites précisions. Les trois premières séquences que vous allez voir sont silencieuses. Alors, le premier extrait, eh bien, ça va faire plaisir, je crois, à tout le monde, est tiré du très célèbre « Regard du sourd » et a été filmé en 70 ou 71. Vous y reconnaîtrez un certain nombre d'éléments qui sont récurrents dans ce spectacle désormais mythique. En particulier, évidemment, ça commence sur assise sur une chaise immobile, regard fixe, la Bird Woman, Cheryl Sutton, qu'on a vu tout à l'heure dans Einstein. Elle tient son oiseau noir. On voit aussi la tortue. Alors, je le dis parce que cette tortue qui traverse lentement la scène, au moment où l'extrait commence, elle est déjà à la mi-parcours et légèrement invisible parce que derrière une table. Alors soyez attentifs à la présence de la tortue. Mais elle est bien là. Alors il y a un homme qui court et il y a une chaise à la fin que vous verrez en apesanteur. Voilà le vocabulaire visuel de cette scène. Le deuxième extrait est moins connu, plus étonnant. Il s'agit en fait d'un exercice qui a été filmé sur la plage de Watermill, à Long Island, en 71, même époque. Je précise qu'à l'époque où le film a été tourné, c'est donc un film qui se tourne en extérieur, Wilson n'a pas encore même envisagé de créer son centre de recherche qu'il fondera à Watermill en 92. Alors c'est tout à fait un hasard qui veut que ce soit pourtant sur cette plage qu'il réunit des birds, tous très jeunes, vous allez voir. Il n'y a pas de spectateurs. Seul l'œil d'un cinéaste anonyme qui suit et cadre une série de mouvements dans les herbes et de passages silencieux de course. Alors cet extrait évidemment nous a paru tout à fait passionnant parce que d'abord il montre les birds au travail dans des exercices dont nous allons tout de suite reparler parce qu'ils ne seront pas sans rappeler les expériences auxquelles ont participé ou assisté certains de nos intervenants de tout à l'heure. Je pense en particulier à Marie-Yvonne Saison et à Gilles Anquetil qui ont bien connu les travaux des Wilsoniens de Paris en 70, voire de Robert Wilson même. De plus, les éléments que vous allez voir là, certaines des postures, des directions de regard, un homme qui court et un jeune homme avec un oiseau et un serpent à la main, sur lesquels commence et finit la séquence, rappelle évidemment les images du regard du sourd qui précéderont cette séquence. Soyez aussi attentifs, vous allez très vite le repérer, à un jeune homme qui porte un pantalon rouge, d'abord avec un chapeau, puis sans chapeau, c'est Wilson lui-même, et il a alors 30 ans. La séquence suivante ne sera pas plus sonore ni plus bavarde que les deux précédentes, mais l'image en sera peut-être de meilleure qualité. On y voit Robert Wilson, en juillet 93, il répète, à l'abri de la chaleur, au Watermill Center, et il répète des mouvements silencieux d'un spectacle. Ce spectacle, c'est Hamlet, monologue, qu'il a écrit, répété, puis joué en solo en 95. C'est un travail important parce qu'il marque, d'une certaine manière, le retour sur scène de Wilson, comédien. L'année précédente, on l'avait vu apparaître dans Une femme douce, on était en 94, et la même année dans La mort de Molière, dont témoigneront ces deux travaux, dont témoigneront tout à l'heure Charles Chemin, et on verra quelques extraits demain après-midi d'ailleurs de La mort de Molière. Mais depuis 1980, où il s'était lui-même mis en scène dans un spectacle très peu connu qui s'appelait The Man in the Raincoat, excusez mon accent déplorable, Wilson n'était plus remonté lui-même sur un plateau. Alors, Wilson, acteur de Wilson, Wilson plus ou moins wilsonien, nous en discuterons tout à l'heure sur la base de ce document, mais aussi de la scène qui le suit. Ça, c'est une scène filmée en représentation, c'est la scène identique à celle dont vous aurez vu répéter silencieusement les mouvements quelques secondes auparavant. Cette fois, devant le public, Robert Wilson interprète la scène où Hamlet engage Ophélie à aller au couvent. Le monologue qu'il a conçu sur Hamlet, comme vous le savez sans doute, a la particularité d'avoir annexé à la parole du seul prince Hamlet, au flux continu de la parole du prince, les propos d'autres personnages de Shakespeare, et tout particulièrement ici ceux d'Ophélie. C'est de cet extrait et du suivant que parlait tout à l'heure Frédéric Morin en disant que certains extraits étaient sous-titrés en italien, comme vous le verrez. Alors nous enchaînerons sur une autre scène du monologue. Cette fois, la toute première scène, en fait, celle qui ouvrait le spectacle, je vous l'ai dit, nous n'avons pas classé les extraits selon un ordre chronologique, et d'une certaine manière, Wilson nous l'autorise, c'est même la configuration structurelle du spectacle Hamlet qui nous autorise à bouleverser l'ordre, comme Wilson, finalement, bouleverse la chronologie de la pièce de Shakespeare, puisque pour adapter l'œuvre, le metteur en scène avait imaginé de situer Hamlet au bord du mourir, et Hamlet revoit alors toute sa vie, mais dans le désordre, ce qui évidemment lui permet d'opérer avec le texte originel toutes sortes de montages, d'ellipses, d'inversions, de reprises, sans souci de la chronologie et selon une structure d'ailleurs circulaire. Je précise pourtant qu'aucune parole n'a été rajoutée. Tout ce qui est, tout le matériau qu'a utilisé Wilson est bien le texte de Shakespeare, ce sont les mots de Shakespeare. Tout Hamlet, donc, vu par la conscience du seul Hamlet, c'était finalement déjà la proposition monodramatique de Craig à Stanislavski. Cette première scène va être suivie d'une lecture du même passage, mais à la table, face au public, sans costume, sans scénographie, sans lumière. On retrouve Robert Wilson qui lit la scène 1 à Zurich le 8 juillet 1997. Du monologue, nous passerons au duo, avec une scène intégrale du seul écrit de Marguerite Duras que Bob Wilson ait monté, très exactement de la scène 3 d'un texte de Duras, donc, que le metteur en scène avait lui-même découpé en 7 tableaux, scène extrêmement importante, dans laquelle Lucinda Childs, qui était là tout à l'heure, désigne en son partenaire, qui est alors Michel Piccoli, La maladie de la mort, c'est aussi le titre de l'œuvre de Duras, dont il est atteint. Alors je précise que c'est Wilson qui a conçu le découpage en scène. Le texte de La maladie de la mort, qui est d'ailleurs intergénérique et que Duras voulait éventuellement faire jouer au théâtre, mais pas forcément, pas seulement, se déroule plutôt en un seul mouvement. C'est là un bel exemple du travail, je crois, de mise à distance de l'image et de la parole, du texte écrit et de l'image scénique. Marie-Claire Pasquier parlait ce matin d'un théâtre qui se détache du texte par ses images. On en verra là un exemple. Quelques précisions très importantes néanmoins pour accompagner ce document. C'est pour ça que je demandais à la régie de me faire signe tout à l'heure. On a eu beaucoup d'hésitations à passer ce document parce qu'on attendait un DVD qui devait arriver de Lausanne, qui était la même version, mais l'image était de définition de meilleure qualité. Or, il se trouve que nous allons faire avec le document que nous avons, qui est de très mauvaise qualité. Je pense même que c'est l'image la moins belle. On était très étonnés de voir ça tout à l'heure. On s'est un petit peu affolés. Voilà, on n'a pas pu trouver d'autres traces filmiques. Mais les intervenants ont beaucoup insisté pour qu'on passe quand même ces 5 minutes de la maladie de la mort, puisque ça sert d'appui aussi ensuite à leur intervention. Autre précision, c'est que la trace filmique dont vous allez voir un extrait comporte aussi des imperfections légères de cadrage, parce que le film, en fait, est un document de travail. Il a été tourné pendant la répétition générale. Il n'est absolument pas conçu comme un film en soi, pour être diffusé, par exemple, à la télévision. Hein. Il a été tourné très exactement en 1996 au théâtre de Vidy-Lausanne, où s'est créée la version française de La maladie de la mort, à partir de la version précédente, allemande, que Wilson avait mise en scène en 1991 avec des acteurs allemands. Je précise aussi, puisque certains ont vu le travail lorsqu'il a tourné et qu'il est passé en France, qu'au moment, il y a un moment où Lucinda se lève de sa chaise, et au moment où elle se levait de sa chaise, elle accompagnait ce mouvement d'un cri strident, et pour une raison très certainement technique, on ne sait pas trop bien pourquoi, au montage, ce cri a été coupé. Donc vous ne l'entendrez pas, ne vous étonnez pas de cette absence. Il y a une espèce de cut bizarre à ce moment-là. Et puis, je tiens à dire aussi que ce que vous allez voir, pour ceux qui ont vu le travail qui a été présenté à l'AMC 93 de Bobigny en 97, soit après un an de tournée et à plus d'un an de cette générale, je dois cette réflexion à Charles Chemin qui me l'a soufflé la dernière fois qu'on en a parlé, ce que vous allez voir en répétition générale est évidemment pas le spectacle tel que vous l'avez vu à Bobigny. Pas tout à fait, les choses avaient bougé en un an. Et puis ensuite, nous avons choisi un extrait des Fables de La Fontaine, créé donc à la Comédie Française. Alors, comment Wilson s'y est-il pris pour diriger les acteurs de la Comédie Française? Fusion ou résistance, ou les deux, je ne sais pas. Alors c'est ce que nous demanderons, entre autres, tout à l'heure à Charles Chemin, que vous allez voir apparaître sur cet extrait, en cerf. La fable mise en scène s'intitule « Les obsèques de la lionne ». Je donne le nom de quelques-uns de ses partenaires, je ne peux pas les donner tous, mais en tout cas, la grenouille qui croasse et qui saute et que vous ne reconnaîtrez sans doute pas, c'est Éric Genovese. Le lion et Bakary Sangaré, et c'est Christine Fersen qui prête voix au narrateur. La dramaturgie et le choix des fables, puisqu'on parlait tout à l'heure des dramaturges, sont d'Hélène Hammer. Enfin, nous terminerons par un spectacle dont nous aurions voulu vraiment reparler en présence de l'acteur principal, malheureusement qui n'est pas là, donc. C'est l'opéra de Katsu de Brecht, monté avec les acteurs du Berliner Ensemble, accueilli au Théâtre de la Ville en septembre 2009 et en avril 2010. Alors, après moult discussions, car il était très difficile de choisir, les images sont assez belles, la définition de l'image est de bonne qualité, et puis en plus c'est difficile de couper dans ces scènes, nous avons gardé trois extraits. Le premier, qui est tout simplement le début du spectacle, on y voit apparaître un à un les acteurs dans un univers qui tient à la fois de la comédie musicale américaine et de l'expressionnisme allemand. Vous reconnaîtrez en particulier parmi les comédiens Angela Winkler, qui interprétait Jenny, et la scène organise aussi l'entrée progressive de Maki, que sa complainte annonce. C'est une entrée de dos, et c'est donc Stephen Court qui joue Maki. La deuxième scène se situe au deuxième acte chez les prostituées. C'est ensemble que Jenny et Maki, donc Angela Winkler et Stephen Court, entonnent la chanson du souteneur. Et enfin, on terminera par une scène de l'acte 3 dans laquelle Maki est mis pour la seconde fois en prison avant sa condamnation puis sa grâce. Et vous entendrez le tout début de la scène jusqu'au moment du chant de Maki, comme si la parole chez Wilson avait pour devenir la parole qui passe d'abord par un dialogue pulvérisé, puis par un monologue, vous verrez, arriver progressivement vers le chant qui serait en quelque sorte son horizon. Pour terminer tout à fait et vous laisser regarder les images, j'avais envie de vous livrer une phrase que j'aime bien, en exergue en quelque sorte, une phrase de Robert Wilson qui parle des acteurs en disant « Les meilleurs acteurs sont ceux qui jouent pour eux ». Nous allons voir.